On a été jusqu'avant la période des fêtes, de la période de Noël. On avait commencé la série sur l'épître de Paul aux Philippiens. On a eu une petite relâche durant la période des fêtes. Petite relâche durant la période du 21 jours de jeûne et prière. Et ce matin, il faut juste mettre la première diapo, s'il te plaît. Peut-être qu'il y en a déjà qui ont déjà oublié Philippiens. C'est une série qui, pour moi, j'ai intitulé « Vivre ». Vivre! Comment je peux vivre aujourd'hui, en 2018, avec tout ce qui se passe, tout ce que j'entends? Et là, j'entends peut-être des gens dire, là où on va s'arrêter juste sur ce qui se passe aux États-Unis avec Donald Trump, tout ce qu'on entend au niveau de mauvaises nouvelles, tout ce qu'on entend. Comment je peux vivre ma vie chrétienne? Je ne sais pas s'il y en a qui ont eu cette discipline-là de prendre Philippiens 4, 15-20 minutes de lire Seigneur à chaque jour. Parce que, je vous le dis, il peut avoir un changement radical dans votre vie en prenant un livre comme ça, comme Philippiens, et de dire, Seigneur, viens changer mon cœur, viens changer ma vie ce matin. Pourquoi? Parce que dans Philippiens, mets la prochaine diapo, parce que dans Philippiens, vivre. Moi, si je veux vivre, premièrement, c'est vivre pour Christ. Je veux juste que Jésus-Christ soit le centre de ma vie. Vivre pour Christ. La deuxième, c'est quoi? Vivre comme Christ. Est-ce que c'est possible en 2018, 2019, de vivre comme Christ? De vivre comme Jésus me l'a enseigné. Est-ce que c'est possible? Ensuite, de vivre avec Christ. Est-ce que je suis capable en 2019 de dire, Seigneur Jésus, moi je veux vivre avec toi. Je veux, Seigneur Jésus, mettre en pratique ce que tu m'as enseigné. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Est-ce que je suis capable de vivre aussi en Christ? Avec le Seigneur Jésus qui est en dedans de moi, si Christ est dans ta vie, c'est de pouvoir dire, Seigneur, moi c'est ce que je veux. Vive pour toi, Seigneur. Vive comme toi. Vive avec toi. Puis vive en toi, Seigneur. Est-ce que c'est ça que vous voulez en 2019? On ne doit jamais oublier ça. Je ne dois jamais oublier ça dans ma vie, que lorsque je viens à Jésus-Christ, lorsque le Seigneur m'a attiré à lui, puis lorsque je viens à Jésus, je ne dois jamais oublier que nous sommes appelés à vivre pour Christ. C'est ça la vie chrétienne. Vivre pour Christ, vivre pour le Seigneur Jésus. C'est ça la vie chrétienne. Lorsque je deviens un enfant de Dieu, un chrétien, un disciple de Jésus-Christ, vivre. Puis moi, ce matin, je veux vous encourager à ne pas perdre votre temps sur des choses insignifiantes. Il y a tellement de choses où je peux perdre mon temps aujourd'hui. Puis délaisser, puis oublier la parole de Dieu, oublier la prière, oublier les frères, oublier l'Église. Il y a tellement de choses. Mais pour qui je vis réellement? Peut-être que c'est une question que vous n'êtes jamais posée. Pour qui je vis? Vivre pour moi aujourd'hui, c'est quoi? C'est quoi aujourd'hui vivre? C'est quoi aujourd'hui la vie? Qu'est-ce que c'est? Finalement, ce qui compte, c'est que nous devons connaître le but de notre vie. Est-ce que vous connaissez le but de votre vie? Puis ce que je m'aperçois moi-même au fil des années, c'est qu'à un moment donné, il y a des gens qui perdent le but de leur vie. Ils le perdent. Mais ça doit être un peu ce que Paul dit, vivre pour Christ. Vive Christ. Paul, il disait aux Philippiens, ma vie, c'est Christ. Ma vie, c'est Jésus. Ma vie, c'est Jésus. Alors, mets la prochaine diapo. Parce que dans Philippiens, il y a 4 chapitres. Au chapitre 1, là où Paul s'est centré, où Paul dit, c'est de verset 27, « Christ est ma vie ». Paul il dit, seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je suis absent. » Ah, 21, excusez-moi, j'essayais de retrouver la phrase, mais non, 21, « Car Christ est ma vie et mourir est un gain. » Puis on l'a vu hier, ceux qui étaient aux funérailles pour accompagner la famille de Coste, on a vu qu'un homme, Jean-Guy de Coste, qui sa vie a reflété l'amour de Jésus. Donc, chapitre 1, « Christ est ma vie », chapitre 2 qu'on va voir aujourd'hui puis les prochaines semaines, « Christ, mon modèle ». Est-ce que Jésus est ton modèle? Qui est ton modèle? Qui est ton modèle? Verset 5. C'est ce qu'on va voir tantôt. On va le voir la semaine prochaine. Mais là, je vais juste mettre la table ce matin, chapitre 2. Paul dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Ayez en vous. Et moi, je dirais ce matin, Paul dit aux Philippiens, « Ayez en vous. » Moi, je dirais ce matin, « Église, le contact. » Aie en toi ce que Jésus avait. Ayez en vous Christ mon modèle. Et le troisième qu'on va voir, Christ est mon but. Philippiens 3, 14, Paul est déjà court vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours vers le but. Où je cours, moi? Il y a tellement de temps qui se perd. Puis même moi, je remets ça en question. Puis je dis, Seigneur, je ne veux pas perdre mon temps. Paul dit aux Éphésiens puis aux Colossiens, rachetez le temps. Christ est mon but. Et on va voir à la fin pour terminer à Philippiens, Christ est ma joie. Puis on l'a vu la semaine passée avec notre ami Rubin, Christ est ma joie. Est-ce que Christ est ta joie? Est-ce que Christ est ta force? Philippiens 4, 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète. Réjouissez-vous. Est-ce que Christ est ta joie? Tu passes des moments difficiles, peut-être. Peut-être que tu passes des moments difficiles. Moi, je ne connais pas ton cœur. Dieu connaît ton cœur. Peut-être qu'il était dans un combat. Mais Christ doit être notre joie. Paul dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Est-ce que je peux vivre aujourd'hui, puis dire, Seigneur, ma joie, elle est en toi. Puis je l'ai dit, je le répète dans les dernières semaines, le voleur de joie, c'est le diable. Le diable veut voler ta joie. Christ est ma joie, mais Christ est aussi ma force. Philippiens 4, 13, Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. La force, on l'a vu, la force toute puissante que je peux avoir, elle est seulement dans le Seigneur Jésus. Peut-être que ce matin, tu manques de force. Peut-être que tu manques de force pour courir. Peut-être que tu manques de force pour être capable d'aller jusqu'au bout. Combattre le bon combat de la foi, le Seigneur est ta force. Vivre pour Christ, c'est renoncer à une sorte de vie à moitié ou à trois quarts. Non, ce que Dieu veut, ce que Jésus veut, c'est une vie à 100%. Une vie à 100% pour lui. C'est une vie qui est pleine de joie, de satisfaction profonde. Qui va, écoutez bien, une vie qui implique que l'on évite tout ce qui peut salir notre vie. Il y a plein de choses aujourd'hui qui peuvent salir ta vie. Plein de choses qui peuvent salir notre vie aujourd'hui. Plein. Nous, ça a commencé par même les réseaux sociaux, par Facebook, la télévision. Plein de choses qui peuvent nous salir ce matin. Vous savez, quand j'ai enseigné sur Jacques, il dit que ta parole, ça peut servir pour bénir et non pour maudire. Ma langue, je peux salir. Je peux salir des gens avec ma langue. Tout ce qui salit notre vie, notre intérieur qui va déplaire à Jésus-Christ. Combien il y a de choses qui salient aujourd'hui? Et j'aimerais vous encourager ce matin, ou chaque matin que Dieu vous donne, il est bon de se rappeler l'engagement. Si tu as pris un engagement avec Dieu, il y a peut-être 6 mois, 1 an, hier, avant-hier, il y a 30 ans, écoutez bien, chaque matin, il est bon de se rappeler l'engagement que vous avez pris lors de votre conversion à suivre Christ chaque jour de votre vie. Suivre Jésus. Seigneur, j'ai pris engagement, moi, en 1983, à donner ma vie à Dieu et de pouvoir dire, Seigneur, je veux te suivre. Je veux marcher dans tes voies. Je veux que tu sois mon modèle. Je veux que, Seigneur, que mon but à moi, c'est toi. Puis est-ce qu'il y a eu des périodes où il y a eu des buts? Oui, il y en a eu. Mais vous savez, ce qui est merveilleux là-dedans, c'est que reviens dans le chemin. Reviens peut-être là où tu t'es éloigné, puis rapproche-toi de Jésus. Christ est ta vie. Christ veut être ta vie. Tournez avec moi dans Philippiens 2. Avant de lire Philippiens 2, j'ai une question pour vous. Quelle est la place du royaume de Dieu dans vos vies? Quelle est la place du royaume de Dieu dans ma vie? Quelle est la place du royaume de Dieu dans mon cœur? Quelle est la place de Dieu dans ma vie? Est-ce que pour toi, c'est vivre, c'est Christ? Est-ce que c'est ça? Philippiens 2. Juste les quelques versets qu'on va lire ce matin. Philippiens 2. Et là, n'oubliez pas en perspective le chapitre 1, quand Paul est dit « Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. » Et là, Paul continue, il dit « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. » Rendez ma joie parfaite. Comment? ayant un même sentiment. Paul, il s'adresse à l'Église. Puis je vais revenir ce matin, parce que vous allez voir mon titre ce matin pour chacun de nous. Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Et ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, c'est-tu ça que j'ai bien lu? C'est-tu bien ça qui est marqué? Que chacun de vous, moi compris, tout le monde, chaque toi, moi, chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Hey, mes amis, on est appelé à considérer les intérêts des autres avant mes propres intérêts. Les intérêts de ma conjointe, mes enfants, les intérêts... Est-ce que ça veut dire... Vous allez voir ce matin, c'est quoi le titre? Mets le titre ce matin. Unité, humilité. J'aurais pu dire ce matin, vive en unité dans l'humilité. Vive en unité en tant qu'Église, en tant que croyant, en tant que famille, en tant que chrétien. Vive dans l'unité ou vive à l'unité dans l'humilité. D'apprendre à regarder les autres, apprendre moi-même à vous regarder comme étant plus important que moi. Vive, unité, humilité. Puis c'est ce qu'on va regarder ce matin. Vous avez sûrement entendu dire ces phrases-là, je vais citer quelques phrases ce matin. On n'a qu'une vie à vivre. Hein? Il faut en profiter. Hein? On n'a qu'une vie à vivre, il faut en profiter. Puis moi, j'en profite. Les besoins au niveau de la rue et des itinérants, c'est pas important, ça. C'est à Montréal, c'est pas ici. Haïti, c'est pas grave, c'est dans un autre pays. C'est pas important, j'ai juste une vie à vivre. C'est juste moi qui compte, juste ma vie à vivre. Dieu ne veut-il pas que je puisse satisfaire mes propres désirs? Combien de fois j'ai entendu, écoute, je travaille assez, je gagne mon pain, je travaille assez, quand même que je volerais un peu ou que je mentirais ou que je ferais des choses qui sont mal. Où est le mal à vivre pour soi? Il est où le mal à vivre pour soi? Il est où le mal à faire sa petite vie? Je ne dérange pas personne. Pourquoi? Pourquoi Christ? Pourquoi Jésus veut que je vive pour lui? Pourquoi? Pourquoi vivre ma vie en Jésus-Christ? Pourquoi lire la parole de Dieu? Pourquoi? Je lisais une fable cette semaine. C'est une fable d'Ésope. Connaissez-vous Ésope? Oh, Rubin, tu connais Ésope? Ah oui, c'est pour ça que tu as les cheveux blancs, hein? Écoutez bien, Ésope, on dit qu'il est à peu près 6e siècle avant Jésus-Christ. OK? 6e siècle avant Jésus-Christ. Écoutez bien, il raconte une histoire, puis j'ai trouvé ça intéressant, puis je vous la partage ce matin. C'est les 4 taureaux et le lion. 4 taureaux. Vous allez comprendre pourquoi. Unité, humilité. Unité dans l'Église, dans l'humilité. 4 taureaux, de très bons amis, ils décident de se liguer et de ne jamais se séparer les uns des autres. Pourquoi? Parce qu'ils veulent leur conservation réciproque, ces 4 taureaux-là ensemble. Mais, il est arrivé dans le décor un lion extrêmement pressé par la faim, puis que lui, ce qu'il voulait, c'est aller manger. Il peut se mesurer à l'un des taureaux, mais pas à tous les 4 en même temps. Impossible. Alors, regardez bien, qu'est-ce que le lion a fait? Vous savez, quand la Bible a dit que le lion est comme un lion rugissant, là, j'en ai parlé dernièrement dans Éphésiens 6, regardez bien ce qui est arrivé. Chaque fois que l'un des taureaux se trouve derrière les autres, le lion lui chuchote que ses 3 amis disent du mal de lui. Je ne sais pas si vous me voyez venir, là. Chaque fois que l'un des taureaux se trouve derrière les autres, le lion lui chuchote que ses 3 amis disent du mal de lui. Mais vous savez quoi? Cet artifice a réussi. Et bientôt, chaque taureau pense que les autres complotent contre lui. Qu'est-ce qui arrive? Ils se séparent et le lion les dévore l'un après l'autre. Cette fable souligne la vérité selon laquelle l'union fait la force et la division mène à la chute. ce concept. Peut-être c'est comique ou pas comique, cette fable-là. Pourquoi une fable? Hein? Ça s'applique également dans l'Église aujourd'hui. Jésus a prié pour que ses disciples soient un dans Jean 17. Père, il dit, je te prie pas des ôter du monde, mais de les préserver du monde, l'unité ensemble. Jésus, il dit, si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister, dans Marc. Et dans Philippiens 1, 27, Jésus, il dit, ensemble à l'Église de Philippe, ensemble à l'Église de contact, marcher d'une manière digne. Une manière d'en rester unis ensemble, dans l'unité. Unis, ensemble. C'est pour ça que vous avez vu en avant, ensemble pour Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui me disait dernièrement, il dit, Luc, ce que j'aime, c'est que quand tu nous dis souvent, ensemble, ensemble, on travaille ensemble. On n'est pas là pour être divisé, on n'est pas là pour qu'il y en a un qui soit plus grand que l'autre ou plus fort que l'autre. On travaille ensemble. Paul a dit, mettez le comble à ma joie afin d'avoir une même pensée. On l'a regardé tantôt. Une même pensée ensemble, dans l'amour, une même âme, une même âme, une même joie. Et là, je vais vous citer quelqu'un ce matin, Mark Twain, un auteur américain qui a dit, et ça là, je l'ai trouvé forte, puis j'ai dit, est-ce que c'est vraiment vrai? Mais vous savez quoi? Probablement, au fil de l'expérience, au fil des années, c'est pas ce que je veux, moi, puis c'est pas ce que Dieu veut. L'auteur américain Mark Twain a dit qu'une fois, pour faire une expérience, il a mis un chien et un chat en cage pour voir comment ils s'entendaient. Contre toute attente, ils s'entendaient vraiment bien. Et pour avancer son expérience, il l'a refait avec un oiseau, un cochon ou une chèvre. Avec quelques réglages, ils se sont entendus vraiment, vraiment bien. Mais pour conclure son expérience, il l'a mis en cage. Et là, ce matin, il n'y a aucune pensée pour moi, parce que probablement c'est à cause de toutes ces années. Il l'a mis en cage un baptiste, un pentecôtiste et un évangélique. Vous savez ce qui est arrivé après? Lui, il va plus loin. Il dit, peu après, il n'y avait aucun vivant dans la cage. Non, sérieux ce matin, là. Sérieux ce matin. C'est pas ce que Dieu veut, puis c'est pas ce que Paul enseigne ici. C'est pas d'avoir un même cœur, c'est pas d'avoir un même amour, puis c'est pas d'avoir un même sentiment. C'est fort, ça, là, ce matin. Ça doit nous parler ce matin. Heureusement, j'ai jamais entendu parler qu'il y avait des chrétiens qui se sont tués. Mais combien de fois, par exemple, j'ai vu des chrétiens avec leur bouche tuer quelqu'un, blesser quelqu'un, telle dénomination contre telle dénomination, telle guerre, là, va pas là. Fais pas ça, puis un tel, non! C'est pas ce que Dieu veut, puis c'est pas ce qu'on va vivre ici. Absolument pas. On se tuera pas pour nos différences, au contraire, on va les mettre ensemble. On va mettre nos différences. Il y a quelqu'un qui disait, unis dans la diversité. Regardez ici, ce matin, on a des gens à peau blanche, des gens à peau foncée. On a des frères haïtiens, des frères africains, des sœurs africaines, des sœurs haïtiennes. On a des gens du Québec qui sont nés ici. On peut-tu travailler ensemble? Oui! On peut-tu avoir un frère qui vient d'Haïti et qui va prier pour son peuple et qu'on va s'unir avec lui? Unis ensemble pour Christ. Quelqu'un a dit, s'il n'est pas possible d'avoir l'unité entre les églises protestantes ou évangéliques, est-ce qu'il est possible que dans nos églises, on puisse avoir l'unité ensemble? Oui, c'est possible. Oui, c'est possible d'avoir l'unité ensemble. Pourquoi? Parce qu'on ne considérera pas nos propres intérêts, on va considérer les intérêts du Seigneur Jésus avant. On va considérer les intérêts du Seigneur Jésus. Puis ce que j'aime, c'est que dans différentes versions de la Bible, s'il y en a qui vous avez vos Bibles avec vous ce matin, moi, en haut de ma Bible, OK, on sait qu'il y a des chiffres, il y a des lettres, il y a des explications, il y a des titres. Et moi, dans ma Bible, c'est marqué « Exhortation à l'humilité et à l'unité ». Puis je sais que des fois, on ne doit pas s'arrêter juste à ça parce que c'est des mots qui ont été rajoutés par les hommes. Mais pour moi, il y a quelque chose qui est là. Regardez bien, dans la Bible du Sommeur, c'est aimé, c'est marqué « aimer à l'aide du Christ ». Aimer à l'aide du Christ. Seigneur, je ne suis pas capable de l'aimer, lui. Je ne suis pas capable de l'aimer, elle. Mais aime-le de l'amour du Seigneur Jésus. parce que Dieu t'a tant aimé. La Bible, le second 21, appelle à suivre l'exemple du Christ. Dans la table, c'est marqué « une vie qui s'accorde à l'Évangile et qui recherche l'unité ». Je m'accorde à l'Évangile, puis je vais rechercher l'unité. L'unité avec Christ. Dans la Bible française courante, c'est marqué « l'humilité et la grandeur du Christ ». Dans la Bible, parole de vie, c'est marqué « le Christ s'est fait serviteur ». C'est ce qu'on va regarder la semaine prochaine. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Dans la Bible crampon, c'est marqué « restez unis dans l'attachement à la même foi, comment? Par l'humilité et l'abnégation de leurs propres intérêts à l'exemple de Jésus-Christ ». Arrêtons de regarder à nos propres intérêts. Comme je l'ai dit souvent, vous avez des forces, j'ai des faiblesses, j'ai beaucoup de faiblesses, vous avez des forces. On peut-tu les mettre ensemble? Hein? Exhortation dans la Bible du Sagon, exhortation à l'union fraternelle et à l'humilité. Humilité. Humilité. Puis ce qui est intéressant, c'est que Paul, il commence avec un petit mot de deux lettres. Si. Si donc. Mais là, Paul, il va plus loin dans tout le verset. Il dit, il y a les quatre « si ». Moi, j'appelle ça les quatre « si » de l'apôtre Paul. Si donc, Paul, il va noter juste ici quatre motivations pour l'unité. Si je veux l'unité dans ma vie, unité dans mon couple, unité dans ma famille, unité dans mon milieu de travail, il y a des « si » qui sont là qui doivent m'amener à dire, « Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? » Le « si ». Et ça, c'est important ce matin. Le « si » ici ne veut pas dire que peut-être. Peut-être que nous avons une consolation en Christ. Peut-être que nous avons du soulagement dans l'amour. Non, ce n'est pas quelque chose qu'on expérimente ou qu'on n'expérimente pas. Ce qui est important de comprendre ce matin, le mot « si » pourrait être traduit « puisque ». Puisque Dieu dit ça. Puisque, voici comment je dois me conduire pour cette unité-là. Puis on va regarder ces termes-là ce matin. Si donc, il y a quelle consolation? Donc, Paul, il note quatre motivations pour l'unité. Puis ça, c'est pour chacun de nous ce matin. Pour chacun de nous ce matin. Qui peut se servir dans ma vie de tous les jours, mais qui peut servir dans la vie de l'Église. Puis ce matin, ça s'adresse à la vie de l'Église. Puis je ne suis pas en train de dire, puis je ne veux pas que ce matin, les gens pensent qu'il y a des divisions à l'intérieur. Non, au contraire. Au contraire, merci pour qui vous êtes. Merci d'être là ce matin. Merci dans l'amour dans lequel que je vois des frères et des sœurs travailler. Puis pasteur André pourrait confirmer ce matin, on le vit dans ces dernières années où on voit cette unité-là. Mais ce matin, je veux juste le renforcer ce matin parce que c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Puis on est là ce matin. Donc, ce sont des choses qu'on doit expérimenter, que je dois vivre dans ma vie chrétienne. Alors, regardez bien ce qu'il nous dit ce matin. Consolation en Christ. Consolation en Christ. Soulagement dans l'amour. On peut-tu soulager dans l'amour les uns les autres? Communion d'esprit. C'est intéressant parce que ceux qui étaient au funérailles hier de M. Decosse, Alain, quand tu as parlé, Alain, aujourd'hui, on vagabonde l'amour de toutes sortes de noms. Comment? On galvaude. Hey, j'étais pas loin, vagabonde. On galvaude. Ah! On vagabonde. Hey! Ah, excusez mon français ce matin. On galvaude, hein? On galvaude l'amour. Hein? L'amour est pris à toutes les sauces aujourd'hui. Mais soulagement dans l'amour. Est-ce que je peux aider un frère ou une sœur qui passe des moments difficiles de la soulager dans l'amour du Seigneur Jésus? Communion de l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire, cette communion de l'esprit? Compassion, miséricorde. Compassion. Hein, quand Jésus voyait la foule émue de compassion. Compassion pour les itinérants. Compassion pour un frère ou une sœur parce qu'il vit telle chose. Tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas tout seul à vivre ça. Tu savais ce qu'on a dit dans les dernières semaines? Tu n'es pas tout seul dans le combat. On est avec toi. Tu n'es pas tout seul dans le combat. Compassion, miséricorde. Compassion, miséricorde. Notre consolation en Christ, c'est le fait que lui vient vers nous. Ma première consolation, il dit, Paul, s'il y a quelque consolation dans les choses du monde, non, ma consolation, elle est en Christ. Ma consolation, elle est en Jésus. Notre consolation en Christ, c'est le fait qu'il vienne près de nous. Christ vient près de nous. Puis, écoutez bien, j'aime ça ce matin, il nous aide, il nous soutient, il est présent. Et quand nous entendons le mot consolation, nous pensons à des gens tristes qui ont besoin de réconfort. Puis c'est ce que Dieu veut faire avec chacun de nous. J'aime ce que Paul dit, ce que Jean dit dans son épître, Jean 14. Jean dit, « Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. » On n'est pas de ça, Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit, un autre consolateur afin qu'il demeure. Hein? Afin qu'il demeure éternellement avec vous. On a le Saint-Esprit qui est là, comment? Consolateur, le Saint-Esprit qui est là pour chacun de nous. Ce que je vais vous dire, là, c'est important ce matin pour chacun de nous, pour moi, dans ma propre vie. Puis j'en ai parlé dans les dernières semaines, attachement, écoutez bien. Quand nous sommes, chacun de nous, OK, chacun de nous, quand nous sommes solidement, ça veut dire quoi? Quelque chose de solide, quelque chose qui tient fort, OK? Quand nous sommes solidement attachés à Christ, scellés de son sceau, nous trouvons l'acceptation, la compréhension et le réconfort nécessaires pour vivre la vie que Dieu veut que l'on puisse vivre. Attaché, solidifié avec Christ, solidifié avec Jésus au travers de sa parole. C'est ça que Dieu veut qu'on vive. J'aimerais vous dire ce matin, puisque j'ai entendu hier encore au travers des témoignages, en Christ, en Jésus, nous ne craignons plus la mort. Wow, quelle consolation! Consolation en Christ. Quand nous voyons un proche s'en aller, nous savons où il s'en va. On sait où Jean-Guy est parti. On sait où notre sœur Lise est partie. On sait où Isabelle est partie. On le sait. On le sait. Est-ce que toi, tu sais où tu t'en vas si tu meurs demain matin, si tu meurs aujourd'hui? Ma question pour toi ce matin, est-ce que tu es en Christ Jésus? Est-ce que Jésus est dans ta vie? Je lisais cette semaine, puis j'ai essayé de retrouver la statistique, puis il disait, il y a plus de gens qui meurent d'accident que de gens qui vont mourir de vieillesse ou de maladie. Puis, vous savez ce que ça veut dire, ça? Un accident, ça peut être comme ça. Tu sors aujourd'hui, bang! Plus de gens. Nul ne connaît ni l'heure, ni le jour de sa mort. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt à rencontrer Dieu? Êtes-vous prêt à rencontrer Dieu? Encouragement. Le deuxième, c'est quoi? Encouragement dans l'amour ou soulagement dans l'amour. Soulagement dans l'amour. Pour ça, je ne m'éterniserai pas trop là-dessus, mais ma question pour vous, pour moi ce matin, est-ce que tu es amoureux du Seigneur Jésus? Est-ce que tu es amoureux du Seigneur Jésus? Est-ce que tu aimes le Seigneur Jésus? Est-ce que tu aimes de savoir que Christ est mort pour toi? Quelqu'un disait que tout chrétien devrait être animé d'un zèle indicible quand il parle de l'amour de Dieu. Wow! Hey, moi, ça m'encourage ce matin, Seigneur, donne-moi ce zèle de parler de ton amour. Parler de l'amour de Dieu, pas l'amour des hommes. Oui, il y avait un chant il y a quelques années, quand les hommes vivront d'amour. Quand les hommes vivront d'amour. Mais quand les hommes vivront de l'amour de Dieu, il y a quelque chose qui va se passer. Un amour de Dieu. L'amour de Dieu. Encouragement, soulagement de pouvoir ensemble dans l'unité. Parler de Dieu et de son amour aux autres devrait stimuler ma foi. Excusez-moi. Parler de Dieu, parler de l'amour, ça devrait stimuler ma foi. De savoir que je parle de l'amour de Dieu, ça devrait stimuler ma foi. Comment ma foi, elle est stimulée? Regardez bien ce que Paul dit aux Romains. Paul dit aux Romains 5:8, « Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Imaginez l'amour de Dieu pour moi, comment je dois parler de l'amour. L'amour, soulagement dans l'amour. Il y a plein de gens qui souffrent autour de nous. Plein de gens qui souffrent et ont besoin d'entendre de l'amour. Dieu déverse son amour dans notre cœur. Dieu a déversé son amour dans notre cœur. communion de l'esprit. Communion de l'esprit, ça veut dire quoi? Juste pour résumer, ton esprit parle à mon esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Quand nous sommes en Christ, quand nous sommes en Jésus, écoutez bien, c'est-à-dire nés de nouveau, que nous sommes passés du royaume des ténèbres à la lumière, on bénéficie d'une nouvelle relation avec Christ. Communion avec le Saint-Esprit. Communion avec Dieu. Une relation intime et authentique. Et là, je pourrais parler, exemple. Moi, quand je suis allé en Haïti, il y a 2 ans, je ne connaissais pas personne, sauf Pasteur Jose, notre frère Guy et Lise qui étaient avec nous. Je ne connaissais pas personne là-bas. Je peux vous dire une chose. Quand je suis arrivé là-bas et j'ai rencontré la dizaine et la dizaine de chrétiens, même la place où on a été accueillis, là, communion de l'esprit ensemble. Incroyable. J'ai rencontré des chrétiens au fil des années, puis tout le monde peut le témoigner ce matin. Si tu es un chrétien ce matin, né de nouveau, puis tu es passé du royaume des ténèbres, quand tu as rencontré un autre chrétien, puis que vous êtes échangé ça, qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? J'ai l'impression de la connaître depuis 20 ans, 30 ans, 50 ans, connaître cette personne-là. C'est communion de l'esprit ensemble. La communion que nous avons avec Christ et avec les frères est une réalité. Est une réalité, cette communion-là, mais vous savez le problème, c'est quoi? C'est qu'elle n'est pas parfaite. Elle ne sera jamais parfaite. Elle ne le sera jamais. Vous avez déjà entendu dire, hein? Peut-être qu'un jour, je vais vous blesser. Peut-être qu'un jour, vous allez me blesser. Mais on va être capable, par exemple, de se demander pardon. On va être capable de se demander pardon. Chaque véritable enfant de Dieu devrait vivre cette réalité-là. Cette réalité-là de qui suis moi? Qui suis moi? Communion de l'esprit. Compassion et miséricorde. S'il y a quelque compassion et miséricorde, compassion et miséricorde. Compassion et miséricorde fait référence au pouvoir de la tendresse et de la compassion tellement nécessaire pour vivre dans cette unité-là. Compassion et miséricorde les uns avec les autres. Il n'y a pas personne qui est plus haut que l'autre. Il n'y a pas personne qui est plus grand. Ah, toi, tu sers, toi, tu fais ça, toi, tu viens prêcher en avant, toi, tu joues la guitare. Non! Chacun de nous ce matin. Chacun de nous ce matin. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que l'autre. Je ne suis pas plus grand que vous, moi, ce matin, ici. Absolument pas. Absolument pas. Pourquoi est-ce si difficile de vivre dans l'unité? Pourquoi c'est si difficile dans les églises de vivre dans l'unité? Pourquoi c'est si difficile entre des frères et des sœurs de vivre dans l'unité? Pourquoi? Pourtant, toutes les ressources sont là. Toutes les ressources sont là de ce que Paul dit. Regardez bien, on va regarder ça ensemble. Si je vous posais la question ce matin, d'après vous, que veut dire vivre dans l'unité? Répondez juste dans votre tête, okay, pas à voix haute. D'après vous, que veut dire vivre dans l'unité? Mets la diapo 8. Paul il dit, rendez ma joie parfaite. Comment je peux vivre dans l'unité? En ayant un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. C'est ce que Paul dit. C'est ce que je dois avoir envers chacun de vous. C'est ce qu'on doit avoir envers chacun de nous. L'expression « un même sentiment » se rapporte au cœur et à la tête. Il signifie une même compréhension, une même vision des choses. Si on regarde en perspective, c'est quoi notre vision? Qu'est-ce que Dieu veut? Même sentiment. Un même amour signifie un même engagement à rechercher le bien de l'autre. Je recherche mon bien. Je recherche ton bien, mon frère, ma sœur. C'est ton bien à toi que je veux, pas le mien. C'est ton bien à toi en premier. L'expression d'une même âme signifie une même passion, un même désir. Est-ce qu'on peut avoir une même passion en même temps pour les âmes perdues? Est-ce qu'on peut avoir un même désir pour ceux qui ne connaissent pas Jésus? Est-ce qu'on peut avoir une même passion pour un frère ou une sœur qui souffre? Est-ce qu'on peut avoir une même passion pour ceux qui vont vers les itinérants, ceux qui s'en vont à l'extérieur? Et enfin, l'expression une même pensée signifie quoi? Un même but, un même objectif. C'est quoi mon but? C'est quoi notre but en tant qu'Église? Qu'est-ce que Dieu veut? Hein, Paul, il dit, rendez ma joie. Paul, ce qu'il nous dit ce matin, rendez ma joie. Rendons la joie à Dieu en ayant quoi? Un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Notre pensée. Puis on va voir plus loin dans Philippiens 4, quand il parle de la pensée, c'est quoi? Vous savez, c'est quoi l'unité? l'unité de l'aboutissement de tout ça, c'est de faire en sorte qu'on soit un seul corps. Il y a un seul corps. On est tous différents. On a tous des dons, des qualités, des forces, mais on fait un seul corps. Un seul corps. On est une famille. Un ensemble. Un ensemble dans le combat. Ça, on en a parlé dernièrement. On est dans un combat. On est dans une guerre. Il y a une guerre spirituelle qui est là, mais unis ensemble. Dans l'humilité où on ne regardera pas les mois avant. Et on va regarder juste aux autres. Puis je trouvais ça intéressant parce que je lisais cette semaine. Il n'y avait pas de soldats solidaires, mais des soldats... Non, écoutez. Il n'y avait pas de soldats solitaires, mais des soldats solidaires. Il n'y a pas de chrétiens solitaires, mais il y a des chrétiens solidaires ensemble. Je suis toujours triste de voir des chrétiens qui s'isolent, qui se retrouvent tout seuls. Ça me fait de quoi? Je disais ça à quelqu'un ce matin. Je vois pas ça dans la Bible, moi, des chrétiens solitaires. Je le vois pas. Je vois des chrétiens solidaires ensemble, unis ensemble pour la cause de l'Évangile. On va grandir ensemble. Peut-être qu'il va y avoir des coups qui vont se donner, mais on va se pardonner puis on va se réconcilier, puis on va retravailler ensemble, on va se retrousser les manches. Je suis triste de voir des chrétiens solitaires. Puis si vous n'êtes pas triste, priez pour que Dieu vous donne cette compassion-là. Seigneur Dieu, ça me fait de quoi de voir des chrétiens qui se disent chrétiens puis qui sont solitaires, tout seuls? Ne restez jamais seuls. Jamais. Jamais seuls. J'ai déjà entendu des chrétiens dire « Je prends un break de l'Église. » Oh, Seigneur, non! Comment tu peux prendre un break de l'Église? Peut-être parce que tu as été blessé, mais va dans une autre. Réconcilie-toi ou pas, mais va dans une autre. Reste pas tout seul. Non, si jamais ça vous arrive, retrouvez-vous pas solitaire, tout seul, s'il vous plaît. Non. On nous dit que les légionnaires combattent d'une main membre. À l'époque, c'était ça. Comment? Coude à coude, en parfaite harmonie, d'une manière... Regardez ceux qui vont à la guerre, d'une manière ordonnée, en équipe. Il n'y avait pas de soldats combattants tout seuls. Ceux qui étaient tout seuls, il y avait toujours quelqu'un derrière. Puis on doit être comme ça un petit peu, nous autres, avoir toujours quelqu'un derrière nous autres. Paul désirait que les Philippiens soient unis d'un même amour, d'une même pensée, d'une même âme, d'un même sentiment. Puis c'est ce que Dieu veut pour l'Église de contact. Qu'on puisse avoir cette unité-là. Le diable, lui, il sait comment diviser une église. Le diable, il sait. J'ai vu des églises se diviser, moi, pour des choses incroyables. Il y a quelqu'un qui disait, il dit, inquiétez-vous pas, le diable, il se fait 2000 ans, plus de 2000 ans qu'il essaye de diviser l'église. Il essaye de diviser les chrétiens. Si nous voulons que notre équipe soit efficace et remporte de victoire, hein, je disais dernièrement, on est privilégiés, nous, on est dans l'équipe des victoires, on est dans l'équipe du vainqueur. Mais écoutez bien, si nous voulons que notre équipe soit efficace et remporte de victoire, il faut aussi qu'elle suive les conseils de la tête dirigeante de l'Église. Et non d'arriver et de dire, ben non, la tête dirigeante de l'Église fait ça, ben moi, je m'en vais là. On ne peut pas. On s'en va là, mais on s'en va ensemble. On s'en va ensemble. Chacun vienne avec joie dans le but d'édifier l'autre. Il faut que je vienne le dimanche matin dans le but de pouvoir édifier un frère, édifier une sœur, ou qu'un frère ou une sœur m'édifie. Il faut que ce soit ça. Si je viens à l'Église en pensant juste recevoir, non, je dois venir à l'Église dans le but de donner. Donner. Viens pour donner. Et travailler pour un même but, un même objectif. Le royaume de Dieu, l'avancement du royaume de Dieu. Même âme, même sentiment, même amour. On va travailler ensemble. Vivre en accord. Et là, c'est intéressant parce que Paul, puis je vais terminer avec ça bientôt. Paul, il dit au verset 3, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » La réponse, elle est là. Comment je peux vivre dans l'unité? Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres. Les autres, c'est qui les autres? Paul, il s'adresse à chacun de nous ce matin. C'est qui les autres? C'est les autres, c'est vous autres. C'est mon frère, ma soeur qui est assis à ma droite. C'est celui qui est en arrière de moi. C'est celui qui est en avant de moi. C'est ça que Paul est en train de dire. Puis que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, toutes nous autres, tous et tout, hein? Ça, j'espère que vous n'allez pas oublier ce mot-là, tous et tout, hein? Toutes nous autres. L'humilité est la première clé de l'unité. L'humilité est la première clé de l'unité. Considérez les autres avant moi-même. Même moi en tant que pasteur aussi, même pasteur André, même moi envers lui, je dois apprendre à considérer mon frère avant moi-même. Considérez les diacres, considérez ceux qui servent auprès de vous. Considérez les autres. Ne rien faire par esprit de parti veut dire ne pas avoir un esprit de dispute qui cherche des failles. Vous savez ce qu'on fait bien souvent entre nous, ce que les chrétiens font? Ils cherchent des failles chez le frère ou chez la sœur. On cherche la petite bébite. Hein? On cherche la petite bébite du frère ou de la sœur. Mais ça, je voudrais ça vous encourager ce matin. Ça m'a fait penser à ce que Jésus dit. Regarde la poutre que tu as dans ton œil avant de voir la paille. Hein? C'est ça que Paul est en train de dire ici. C'est ça que Paul est en train de dire. Paul avait compris ça. On cherche la faille de notre frère ou notre soeur. Puis si je peux y rentrer dedans pour le blesser encore. Non! Non! Ce n'est pas ce que Dieu veut pour l'humilité. Je trouvais ça intéressant. J'ai trouvé une petite histoire. Puis c'est une maman qui était en train de préparer des crêpes pour ses enfants. Un petit garçon qui s'appelle Charles puis le petit garçon qui s'appelle Christophe. Les deux garçons ont commencé à se disputer. La dispute, c'était qui recevra la première crêpe que maman est en train de faire. Peut-être que vous avez déjà vécu ça, hein, quel des deux enfants ou qui est lequel qui va avoir la première crêpe, mais écoutez bien. La maman, voyant l'occasion de donner une bonne leçon à ses fils, elle le dit. Si Jésus était ici, que dira-t-il? Il dira, donne la première crêpe à mon frère. Je peux attendre. Donne la première crêpe à mon frère, je peux attendre. Alors Charles se tourne vers son petit frère et lui dit, Christophe, tu peux-tu être Jésus? Des fois, c'est ça qu'on voudrait. Hein? Des fois, c'est ça qu'on voudrait. Quelqu'un disait, nous bâtissons par nous-mêmes en détruisant les autres. Non! Non! Nous bâtissons par nous-mêmes en élevant les autres. Ne poursuivons pas nos buts personnels. Ne poursuivons pas nos buts personnels. L'humilité et l'absence d'égoïsme sont les deux clés de l'unité. Être humble, ce n'est pas se rabaisser, c'est s'oublier soi-même. C'est ça l'humilité. Ensemble dans l'humilité. Ensemble dans l'humilité. Mais comment je peux atteindre ça, cette véritable unité-là? Comment c'est possible d'atteindre cette unité-là dans l'humilité? Le verset 3 nous donne la réponse. Et un bon test pour vous ce matin. Un bon test pour vous ce matin, je termine. Un bon test pour savoir si j'agis, si nous agis. Un bon test pour savoir si nous agissons avec humilité. OK, un test pour chacun de nous ce matin. si nous agissons avec humilité, est nous demander comment les autres se sentent dans notre présence. Comment les autres se sentent dans ma présence? S'ils se sentent valorisés, c'est probablement que nous le regardons avec humilité. Par contre, s'ils se sentent diminués, c'est probablement que consciemment ou non, nous les regardons de haut. Regardons-nous un petit peu, là. Regardez exemple, je vais vous donner juste un exemple. Regardez avec les couples qui arrivent, les familles qui arrivent, avec les enfants. On est souvent parti à saluer les adultes. On oublie les enfants. On salue les adultes, on oublie les enfants parce qu'ils sont moins importants. Non, au contraire. Au contraire, on devrait aller vers eux. Comment les gens se sentent en ma présence? 5 moyens. Rejet d'un esprit de parti, renoncer à de vaines gloires, humilité, au lieu de considérer ses propres intérêts, considérer aussi ceux des autres. Je n'ai pas besoin de rentrer plus loin là-dedans. C'est ce que Dieu me demande. L'humilité. Concrètement, ça veut dire quoi tout ça? Concrètement, ça veut dire quoi tout ça? Va à la prochaine diapo. Concrètement, cela veut dire ceci. Prenez le temps de la lire ce matin. Il est important de se rendre compte qu'on n'est pas le centre du monde. Il y a des fois, il y a des gens, on vit comme si on pense que c'est nous qui sommes le centre du monde. Donc, ne pas être égoïste ni égocentrique et voir toutes les qualités et intérêts chez les autres avant les miens. Je considère tes intérêts avant les miens. Je considère qui tu es. Pourquoi? Parce que tu es importante à mes yeux. Tu as de la valeur à mes yeux, puis tu as de la valeur aux yeux de Dieu, bien avant mes propres intérêts. J'inviterai Alain avec l'équipe. Et là, je vais terminer avec une phrase ce matin parce qu'il y a, il y a une couple de plus jeunes ici ce matin. Ben, va à la prochaine diapo, 1 Pierre 5. Pierre, il dit, « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et dans tous vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. » Là, je veux juste clarifier quelque chose ce matin. En rapport avec les jeunes puis les vieux. Puis quand je dis les vieux, là, c'est par respect, je vous dis ça, je vous aime. C'est par les personnes, 35 ans et plus. Les gens un peu plus âgés puis les plus jeunes dans la trentaine, peut-être. Il y a quelques jeunes dans la trentaine. Il y a quelques jeunes qui sont ici ce matin. Écoutez bien. Jeunes et vieux. Quand tu dis vieux ici, quand tu parles des anciens, ça peut être, on peut traduire par des personnes un peu plus âgées. Mais regardez bien. L'orgueil empêche souvent les personnes âgées d'essayer de comprendre les jeunes. Il empêche aussi souvent les jeunes d'écouter les personnes plus âgées. Pierre conseille à tous d'être humbles et de se servir mutuellement. C'est pour ça que je dis souvent, on a besoin des jeunes, on a besoin des personnes âgées. On peut-tu travailler ensemble dans l'humilité? Ne voyons pas les jeunes comme des moins que rien, puis ils ont tout à apprendre. Oui, c'est vrai, mais on a beaucoup à apprendre de nos jeunes. On a beaucoup à apprendre d'un jeune d'une trentaine d'années, 35 ans, 40 ans. Mais les jeunes ont besoin d'apprendre des têtes blanches. Même s'il y en a qui teignent leurs cheveux, là. Mais on a besoin d'apprendre des personnes âgées. On a besoin d'apprendre des personnes âgées. Même moi, à 63 ans, j'ai besoin d'apprendre de vous. J'ai besoin d'apprendre d'une Lauriane, exemple. Mais j'ai besoin d'apprendre. J'ai besoin d'apprendre de ceux qui sont dans un âge avancé. On a besoin des uns des autres. Respectons ceux qui sont plus âgés que nous. Écoutons les plus jeunes. Et soyons assez humbles pour admettre que nous pouvons apprendre des autres. Pour terminer, est-ce que je considère mon frère et ma sœur comme étant plus importants que moi? Est-ce que les autres passent avant moi dans l'Église? Puis quelle est pour vous l'importance de l'unité? Dernière référence ce matin, Colossiens 3. Je voulais terminer avec une référence parce que je pense qu'il n'y a pas juste Paul qui dit ça aux Philippiens, Paul dit ça aux Colossiens, puis Paul dit ça à chacun de nous ce matin. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, Paul il dit, revêtez-vous, hein, revêtez-vous. Peux-tu en mettre une couche, puis une autre couche, puis une autre couche, une autre couche, on va se revêtir de quoi? De sentiments de compassion. Sentiment de compassion. Et si tu n'as pas de compassion, Seigneur, moi, je veux me revêtir de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. L'unité dans l'humilité. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout, Paul il dit quoi au début? Revêtez-vous, mais là il dit par-dessus ça, se passer encore. Se passer, puis je n'ai pas terminé, écoutez-moi, ainsi donc. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour. Revêtez-vous de l'amour. Puis cet amour-là, c'est quoi? C'est le lien de la perfection. Puis c'est ça que Dieu veut, le lien de la perfection. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former quoi? Il a parlé tantôt, former un seul corps. Un seul corps règne dans mon cœur. Qu'est-ce qui règne dans mon cœur? Qu'est-ce qui règne dans mon cœur? Mais soyez reconnaissants. Comment je peux faire ça? Mais que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Comment? Par des psaumes, des cantiques, par des louanges, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout. Faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce. Faites tout au nom du Seigneur Jésus. Lorsque nous œuvrons ensemble, et faisons preuve de sensibilité envers le problème des autres, nous imitons qui? Nous imitons Christ, nous imitons Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus faisait? Il plaçait les intérêts d'autrui avant les siens. C'est là où on va expérimenter ensemble l'unité. Mais la dernière phrase pour ce matin. Souvenons-nous, mes amis. Souvenons-nous, Église de contact. Ensemble, nous vaincrons. Mais divisés, nous serons vaincus. Ensemble, nous vaincrons. Ensemble, nous vaincrons. Ensemble, nous vaincrons. Deux minutes, je termine avec une belle petite histoire d'humilité. Je termine avec une histoire d'humilité avec des questionnements pour chacun de nous. Je ne me souviens pas si je l'ai déjà conté, mais elle est venue sur mon cœur ce matin. C'est une fille qui est aveugle. Elle se détestait tellement à cause de son handicap. Elle haïssait tout le monde, sauf un jeune garçon qui était son ami. Il était toujours là pour elle. Il ne regardait pas son intérêt à lui, il regardait son intérêt à elle parce qu'elle était aveugle. Un jour, elle lui dit, « Si seulement je pouvais voir le monde, elle dit, je me marierais avec toi. » Un jour, quelqu'un lui a fait don de ses yeux, un donneur anonyme. Quand les bandages ont été enlevés, elle pouvait tout voir. Elle a même vu son ami qui s'intéressait à elle. Il lui a dit, « Maintenant que tu peux voir le monde, est-ce que tu peux m'épouser? » La fille le regarda et vit qu'il était aveugle. La vue de ses paupières fermées la bouleversa. Elle ne s'attendait pas à ça du tout. La pensée de le voir ainsi pour le reste de sa vie ne lui plut pas du tout et elle refusa de l'épouser. Son ami la quitta en pleurs et quelques jours plus tard, elle fit parvenir une lettre, une note qui disait ceci. « Prends bien soin de tes yeux. » « Ma chérie, car avant qu'ils deviennent les tiens, ils étaient les miens. » Très peu de personnes se rappellent de leur passé. Puis là, je m'adresse à chacun de nous ce matin, puis je termine vraiment avec ça. Très peu de personnes se rappellent de leur passé. Et des amis qui les ont soutenus dans des situations difficiles et douloureuses. La vie est un cadeau qui vient de Dieu. Mais écoutez bien ce matin, pour chacun de nous ce matin, pour toi, avant qu'on reparte. Aujourd'hui, avant de dire un mot cruel, rappelle-toi de ceux qui sont muets. Avant de vous plaindre du goût de la nourriture, pensez à ceux qui n'ont rien à manger. J'écoutais hier, il disait que, peut-être que les frères haïtiens vont confirmer avec moi ce matin, il disait qu'il y a des haïtiens qui vivent avec 2 $ par jour pour se nourrir. Avant de vous plaindre de votre conjoint ou de votre conjointe, de lui faire des infidélités, pensez à ceux qui implorent Dieu pour avoir un compagnon ou une compagne. Avant de vous plaindre de la vie, pensez à ceux qui sont morts trop tôt. Avant de pleurnicher sur le trajet que vous devez conduire, pensez à ceux dans des pays qui font ça à pied. Moi, j'ai rencontré des gens en Haïti qui marchent une heure à pied le dimanche matin pour venir à l'église. 1 heure à pied. Quand vous êtes fatigué et vous plaignez de votre travail, pensez à ceux qui cherchent un emploi. Quand des pensées déprimantes semblent vous abattre, faites un effort pour sourire et dites-vous, je suis en vie, donc tout est encore possible. Méditons là-dessus, mes amis. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Unité dans l'humilité. Allez, on va terminer avec quoi? Amen. On va terminer avec le chant, justement, qui dit « Nous voulons chanter ». Puis ce matin, à toi soit toute la gloire à notre Dieu ce matin. Est-ce qu'on peut juste prier pour terminer? Seigneur Dieu, Père, ce matin, je te dis merci pour ta parole. Merci, Seigneur Jésus, qu'on va voir la semaine prochaine où tu nous dis d'avoir les sentiments que toi, tu avais. Merci, Seigneur Dieu, que tu as vu notre état de pécheur. Tu as vu, Seigneur, qu'on avait besoin de toi. Puis je veux prier pour quelqu'un ce matin qui ne connaît pas Jésus. Je t'invite ce matin. Tourne-toi vers Jésus ce matin. Viens à Jésus ce matin. Viens à Jésus ce matin. Peut-être qu'il y a quelqu'un ce matin ici qui souffre dans son corps. Peut-être qu'il y a quelqu'un ce matin ici qui dit, moi là, hey, c'est moi. Non, c'est Jésus en premier. Seigneur notre Dieu, je te prie pour ton Église ce matin. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans l'humilité. Aide-nous, Seigneur, à continuer à marcher dans l'unité. Aide-nous, Seigneur, à regarder continuellement, à d'avoir les mêmes sentiments, les mêmes amours, la même compassion pour ceux qui ne te connaissent pas. Je te prie, Seigneur, pour notre Église. Garde-nous, Seigneur. Je sais qu'il y a un ennemi qui est là qui voudrait détruire. Il y a un ennemi qui est là qui voudrait faire du tort. Il y a un ennemi qui est là pour diviser. Mais, Seigneur Dieu, je sais qu'ensemble, nous vaincrons parce que la victoire, elle a déjà été acquise à la croix par Jésus-Christ. Donc, Seigneur, viens nous toucher ce matin, viens faire du bien. Puis nous voulons chanter ce matin, parce que toute gloire te revienne dans le précieux nom de Jésus, Seigneur. Amen.